France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
J'ai l'impression que toutes les mères ont le leur, une sorte de mantra, mi-injonction, mi-conseil bienveillant, répété à l'envi tout au long de l'enfance, parfois même après. Celui de ma maman à moi, à ses trois filles, était celui-là. Faites ce que vous voulez dans la vie, mais garantissez votre indépendance financière. Alors aujourd'hui, la femme française l'est globalement indépendante financièrement, une autonomie obtenue de haute lutte, elle que Napoléon jugeait juridiquement incapable dans son code civil de 1804, elle qui n'a pu bénéficier librement de son salaire qu'à partir de 1907, elle qui n'a plus besoin de l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque depuis à peine 60 ans. Tout va pour le mieux donc, en théorie peut-être, mais si on ouvre ensemble les livres de compte, la réalité reste encore très inégalitaire. En témoigne la théorie du pot de yaourt, vous connaissez, celle qui veut qu'en cas de séparation, monsieur repart avec le gros mobilier ou le matériel informatique qu'il a payé, lui, à madame, responsable des courses quotidiennes, des pots de yaourt vides. La problématique est connue désormais. L'une de nos invitées a quant à elle baptisé cela Madame PQ, Monsieur Voiture. Deux images, une même réalité. Celle des inégalités financières dans le couple hétérosexuel et pas seulement en cas de séparation. Car il faut dire que les stéréotypes ont la peau dure. Ceux qui associent volontiers femme et vénale ou frivole, à l'image de celles qui cèdent régulièrement à des frénésies de shopping dans les séries télévisées. Vous voyez de quoi je parle ? Bon, et dans la vraie vie alors ? Eh bien, le tableau n'est pas loin d'être caricatural là aussi. Qui perçoit un salaire en moyenne 20% inférieur ? La femme, les trois quarts du temps. Qui diminue son temps de travail pour s'occuper des enfants ? Si 83% des femmes sont actives avec un enfant, elles ne sont plus que 43% à peine lorsque ceux-ci sont trois. Qui prend en charge les dépenses de contraception pour le couple ? Je crois qu'on a compris. Alors que faire ? Quelle organisation financière équitable mettre en place ? Quel régime matrimonial choisir ? Comment s'assurer que l'un des partenaires ne soit pas lésé ? Car tout compte fait, les bons comptes ne font-ils pas les bons amants ? Venez nous aider à répondre à cette question, nous dire comment vous résolvez cette équation par téléphone ou WhatsApp, même numéro 01 45 24 7000. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on débute cette émission avec Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Vous nous appelez Damien, on vous écoute.
Alors, nous, ça fait 32 ans qu'on est mariés. Quand on s'est mariés, on a décidé d'avoir un compte commun. Donc, depuis 32 ans, on a un compte commun. On n'a qu'un seul compte. On a chacun notre livret de caisse d'épargne. Quand on s'est mariés, ma femme avait plus d'argent que moi. Donc, pour notamment quand on a acheté notre premier appartement. Donc, on a fait des documents pour dire que son apport était supérieur au mien et que, de façon que ça soit le plus transparent possible. Et l'argent n'a jamais été un problème. C'est-à-dire que je gagne à peu près 1200 euros de plus que mon épouse. Au début de notre mariage, on avait très peu de moyens. Maintenant, c'est un peu mieux. Mais il y a tellement d'autres sujets de disputes, de discordes, que l'argent, ben, ça a toujours été simple.
Et vous en parlez dans votre couple de l'argent ? C'est un sujet de discussion et de conversation ? C'est pas un tabou ?
Ah, c'est absolument pas un tabou, on en parle, et puis on en parle avec nos enfants, ça n'a jamais été un tabou. Ils ont toujours été au courant de ce qu'on avait, de ce qu'on n'avait pas, de ce qu'on pouvait s'acheter ou pas s'acheter. Et quand les enfants étaient petits, ma femme travaillait à 80%, et je me suis aussi mis à 80%. Et donc on avait vraiment très peu de moyens, on vivait quasiment tout à fait. Mais on a fait des beaux voyages, et l'argent a toujours été une solution, jamais été un problème.
Jamais un problème. Merci beaucoup Michel. La liaison n'est pas très bonne, mais on a compris que ça avait bien fonctionné. Bravo à vous et votre épouse d'ailleurs. Je vous propose qu'on écoute également tout de suite le témoignage de Corinne. Bonsoir Corinne.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez du Morbihan et oui. Votre expérience est peut-être un peu différente.
Alors, j'ai pas entendu complètement le témoignage de l'auditeur précédent. Alors, moi, je veux témoigner sur l'après-couple. Parce qu'effectivement, quand j'étais en couple, l'argent n'était pas un problème. C'est ce que j'ai cru comprendre du précédent auditeur.
Tout à fait.
Oui, on faisait des dépenses, voilà. Non, c'est l'après-couple, en fait. Ce qui se passe, c'est quand, comme dans mon cas, c'est plutôt pour mettre en garde peut-être les personnes qui vont s'engager dans un couple. L'union libre, en fait, elle n'est pas du tout reconnue en France vis-à-vis de la loi. Et dans mon cas, j'ai subi ce qu'on appelle les femmes qui remplissent les caddies, c'est-à-dire que les messieurs souvent font les gros achats, les voitures, les maisons, etc. Puis les femmes, elles comblent en remplissant les caddies, en payant les cadeaux, en organisant les vacances, en
les dépenses de vie courantes.
Voilà, en payant les études des enfants, etc. Et puis, malheureusement, quand le couple s'arrête, la femme, elle a rien. Et le monsieur, il a une maison, une voiture ou plusieurs voitures. Et moi, j'ai pris contact avec une avocate et elle m'a dit, malheureusement, madame, s'il ne veut rien vous donner, il a le droit. La loi est pour lui.
Il n'est pas tenu de le faire, oui.
Mmh. Il n'est pas tenu de le faire. Donc, c'était juste, je voulais apporter ça comme témoignage pour, je ne sais pas si... C'est un risque à courir, quoi. C'est sûr que quand on s'aime, comme disait Fabienne Dupuis dans l'émission Capitale, on ne compte pas, on ne fait pas les comptes tous les jours. Mais au bout de 30 ans de mariage...
On se dit qu'il aurait peut-être fallu compter.
Voilà, qu'il aurait peut-être fallu noter quelque part dans un cahier, mais j'ai payé ceci, j'ai payé cela, et ça a permis indirectement de payer la maison, même si c'est lui qui payait le crédit.
Bien sûr, voilà. Merci beaucoup Corinne pour ce témoignage. Je vous propose qu'on accueille ensemble nos invités. Nous sommes avec Lucille Quillet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'Observatoire de l'émancipation économique pour la Fondation des Femmes et vous êtes l'auteur du prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Nous sommes également en ligne avec Bernard Prieur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue, psychanalyste et vous êtes co-auteur avec votre épouse Nicole Prieur de Disputez-vous bien, c'est paru chez Robert Laffont cette année. Nous sommes également en ligne avec Héloïse Boll, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine et auteur de Les bons comptes font les bons amants. Je rends à César votre expression que je vous ai un petit peu chippée pour mon introduction. Nous venons d'avoir deux témoignages très intéressants et assez opposés finalement. Lucille Quillet, il y a beaucoup de choses dans ce qui s'est dit déjà. La première chose peut-être, c'est que... nous témoigner Michel, c'est important d'en parler en fait de l'argent quand on est en couple, y compris quand on s'aime et que tout va bien.
Mais oui, moi en fait j'ai tendance à dire que quand on aime, on compte. Au contraire, parce qu'on n'a pas envie de léser l'autre, de profiter de lui ou qu'il se retrouve démuni. Comme disait la femme dans le second témoignage, aujourd'hui en France, quand vous n'êtes pas marié, vous n'avez le droit à rien, en cas de séparation ou en cas de décès. Et donc l'argent et le statut aussi conjugal qu'on a, ce sont des sujets, je trouve, de bonne responsabilité en fait, vis-à-vis de la personne qu'on aime, parce qu'on n'a pas envie d'en tirer profit. Il ne faut absolument pas que ce soit un tabou. Ce n'est pas une conversation facile, ce n'est pas la conversation la plus glamour que vous aurez un samedi soir, ça c'est sûr. Mais c'est une preuve d'amour d'accepter l'autre dans ses besoins, son individualité, son besoin d'indépendance aussi, qu'il ait toujours les moyens de pouvoir rester, de choisir de rester ou pas dans ce couple. Donc moi je trouve que ça doit être une preuve d'amour.
D'autant qu'en fait la question de l'argent elle se pose d'emblée dans la BD que vous avez paru, il y a cette scène du premier rendez-vous au restaurant avec chacun qui se demande si il va l'inviter ou pas, si c'est 50-50, etc.
Mais ça met toujours mal à l'aise en fait. Mais dès le premier rendez-vous, est-ce que je paye, est-ce qu'elle paye, est-ce que c'est sexiste, est-ce que c'est féministe, est-ce qu'on fait 50-50 pour prouver qu'on est pour l'égalité? Alors le 50-50, ça c'est quand même une énorme arnaque.
On va
peut-être en parler plus tard, mais c'est vrai que ça met mal à l'aise, c'est pas forcément facile, mais c'est capital d'en parler.
Bernard Prieur, vous dites dans votre livre que l'argent est considéré comme inconvenant, et pourtant, on vient de le dire, il est omniprésent, alors comment on fait entre ces deux problématiques ?
Bien, écoutez, je vous dirai aussi quelque chose, c'est que j'ai reçu depuis longtemps des couples en difficulté, en thérapie, et je m'aperçois que les personnes ont des facilités à parler des problèmes de sexualité, etc., etc. Par contre, les problèmes d'argent, on n'en parle pas. Mmh. On n'en parle pas, et du coup, on vient rarement consulter pour des problèmes d'argent. Ce sont des sujets qui viennent au fur et à mesure des consultations, mais on ne vient jamais pour cela. Alors, finalement, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi, effectivement, cet argent reste tabou? Le premier livre que j'ai écrit en 2007 montrait déjà ces grandes difficultés. À l'époque, effectivement, les divorces ne se présentaient pas de la même façon que maintenant. Et pourtant, toujours ce tabou de, effectivement, comme disait la personne qui a échangé avant moi,
Lucille Quillet,
cette question de l'argent dans le couple, peut-on s'aimer sans compter? Eh bien, effectivement, en général, du côté de l'amour c'est l'affectif, on ne peut pas parler d'argent. Et du côté de l'argent, ce sont des calculateurs, et ce n'est pas bon, et l'amour et l'argent ne font pas dans la tête des individus bon ménage.
Pourtant, pourtant, ce que vous dites également dans votre livre, c'est que derrière l'argent, il n'y a pas qu'une question de chiffres. Il y a des enjeux bien plus larges, des enjeux de pouvoir, d'indépendance, d'estime de soi. C'est aussi tout ça qu'il y a derrière l'argent.
Bien, c'est pour cette raison, parce que derrière l'argent, il y a tout l'aspect relationnel, tous les enjeux psychologiques, les enjeux matériels qui se présentent. Eh bien, effectivement, nous pensons, nous aussi, que pour s'aimer en amour, plus on aime et plus on compte. Et au fond, en amour, plus on aime, plus on compte. Et qu'est-ce qu'on compte en amour? Eh bien, on compte, en général, ce que l'on attend, ce que l'on ne reçoit pas. Mmh. On a tendance à ne pas compter ce que l'on reçoit, mais au contraire, on compte ce qu'on ne reçoit pas. Mmh. Et dans ce sens-là, effectivement, si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous êtes toujours en attente de ce que vous attendez de recevoir et que vous n'avez toujours pas, eh bien, ça ne va pas faciliter les affaires.
Héloïse Boll, je crois que cette idée de les bons comptes, d'ailleurs, c'est le titre de votre ouvrage, mais le fait qu'il faut compter en amour, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est seulement dans la perspective malheureuse d'une séparation ou c'est nécessaire finalement comme moteur tout au long de la vie de couple au quotidien?
Ça me paraît très important régulièrement en réalité. Alors bien sûr, il y a la perspective de la séparation. J'ajoute que la fin
d'un couple notre auditrice précédente, je vous interromps, c'est vraiment le cas typique de la théorie du pot de yaourt, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire que monsieur est reparti avec la maison et elle s'est retrouvée avec rien du tout parce qu'elle a passé toute sa vie de couple à payer les dépenses courantes.
Et sans parler de déséquilibres aussi flagrants et aussi manifestes qui malheureusement arrivent encore régulièrement, il peut y avoir des déséquilibres qui sont très forts. Mais je rappelle qu'un couple, ça se termine de toute façon. C'est-à-dire que si vous ne vous séparez pas à un moment des deux, et si vous vivez une très belle histoire d'amour jusqu'à la fin de votre vie, à un moment, il y en a un des deux qui va mourir. Et là, c'est plus avec une personne dont vous vous séparez que vous faites les comptes, c'est avec la succession de cette personne. Et donc, en réalité, et c'est surtout à ce moment-là que vous vous retrouvez finalement avec le droit face à vous qui va définir bien sûr les comptes, qu'est-ce qui est acquis et quel est réellement ce à quoi vous avez droit. Et donc, même l'exemple de Michel qui témoignait au début de l'émission est un très bel exemple. C'est très beau, c'est une attitude où il y a beaucoup de partage et beaucoup de...
De communication
d'amour,
autour
effectivement,
de ça,
ouais. c'est pas un problème. La réalité, c'est que au moment de la disparition de l'un ou de l'autre, selon les choix que vous avez faits avant, le régime matrimonial que vous avez adopté, la façon dont vous avez acheté vos biens immobiliers, etc. Eh bien, la loi va trancher et dire ça c'est à vous, ça n'est pas à vous, ça n'est pas à vous. Et en fait, il faut connaître tous ces sujets-là et il faut être informé. Être informé en faisant régulièrement les comptes, en faisant régulièrement le point et en regardant s'il y a des déséquilibres qui s'installent, comment on fait pour les combler un petit peu.
Alors justement, parlons un peu de comment se passe la répartition dans le couple. Je vous propose d'ailleurs qu'on accueille Annie à ce sujet. Bonsoir Annie.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de La Rochelle, on vous écoute.
Voilà. Alors, je voulais témoigner pour vous dire que je vis en concubinage avec mon conjoint depuis 23 ans et nous n'avons jamais eu de conflit en ce qui concerne l'argent. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'avons pas de compte joint et nous ne voulons pas de compte joint. Donc, il a son CCP ou son compte bancaire avec ses comptes d'épargne. J'ai mon CCP avec mes comptes d'épargne. Et comment ça se passe? Eh bien, tous les mois, je fais des dépenses. Alimentaire, chauffage, énergie, etc. Je tiens le compte de tout ce que j'ai dépensé. Mon conjoint, de son côté, tient le compte de tout ce qu'il a dépensé également, en gardant tous les justificatifs. C'est moi qui fais les totaux à la fin du mois. Je divise par deux. Et étant donné que c'est en général moi qui fais un petit peu plus de dépenses, il me rembourse la différence. Et le mois suivant, on repart à zéro.
Sacrée organisation, dites-moi.
Mais c'est extrêmement simple. Et il ne peut pas y avoir de conflit. Tous les frais sont divisés par deux. Alors, petit bémol, je suis propriétaire de ma maison. Là, je viens de refaire la toiture. 20 briques, je ne vais pas lui demander de participer à la réfection de la toiture. Donc, c'est moi qui la paye en totalité. Mais c'est normal, la maison m'appartient.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Annie. Alors, Lucille qui est, avant d'examiner un peu plus dans le détail comment peut se passer la répartition de dépenses, en gros, il y a trois logiques. Il y a celle de la proportionnalité, on met chacun le même pourcentage de ce qu'on gagne. Il y a celle de l'égalité 50-50, hein, ce à quoi revient Annie, que ça soit via un compte commun ou un système de compte. Et puis, il y a celle aussi qui est peut-être un peu plus rare, de la spécialisation. Tu prends en charge le loyer, je prends en charge les courses et on veille à ce que ça soit équitable. Le plus, ce que vous dénoncez avant tout, c'est exactement ce que vient de nous dire Annie, c'est-à-dire le 50-50, pour vous, c'est absolument pas égalitaire.
Le 50-50, c'est enrichir les hommes au nom du féminisme.
Moi, expliquez-nous.
Ça me fait hurler. En fait, on parle beaucoup en France des inégalités de salaire, qui sont donc entre 15 et 25%, ça dépend de quoi on parle. Il faut savoir que l'écart de revenus moyen au sein des couples, en France, c'est 42%. Donc, quand vous faites 50-50, que chacun met paye la même chose que l'autre ou met le même montant sur le conjoint ou dépense la même chose, quand on n'a pas les mêmes revenus, ça fait que, et dans 75% des couples en France, c'est monsieur qui gagne le plus. Donc ça fait que les hommes ont plus d'argent pour épargner, pour investir, pour capitaliser sur le long terme. Et les femmes, elles, perdent de l'argent et donc des moyens de faire des choix ou investir sur le long terme. Alors qu'on sait qu'elles auront des plus petites retraites. Donc elles ont besoin de bien savoir gérer leur argent, de bien le placer. Il y a un enjeu aussi vraiment à long terme. Pour ne pas tomber dans la précarité en troisième partie de vie. Donc quand vous faites 50-50, c'est juste plus d'épargne pour les hommes et moins pour les femmes. Alors, quand on a le même niveau de revenu, ça peut sembler juste. On gagne la même chose, on participe. Moi, je me dis, en fait, faire 50-50, c'est juste si on fait 50-50 sur tout. Sur les tâches domestiques, sur les tâches parentales. Parce que vous pouvez avoir le même niveau de revenu, mais que quand il y en a un qui fait comme... Dans 74% des tâches domestiques et parentales en France sont faites par les femmes. Ce temps-là a une valeur.
C'est un travail bénévole, en fait.
C'est un travail gratuit qui crée de la valeur. Très souvent, on a ramené les femmes au statut un peu des profiteuses. Ok, tu ajustes ta carrière, tu travailles un peu moins, tu t'occupes plus des enfants, tu fais plus le ménage, les courses, la cuisine, mais monsieur gagne plus, il dépense plus pour le foyer, tu peux vivre dans un grand appartement, une belle maison, tu profites un peu, tu fais des beaux voyages, t'es contente, donc faut pas la ramener. C'est ça aussi qui fait que pendant longtemps, les femmes se sont dit « je n'ai pas à gagner à parler d'argent, je dois faire profil bas ». Sauf que, en fait, il y a parler de l'argent qu'on a et qu'on dépense, donc là, on se dit « on n'a pas trop intérêt à amener le sujet ». Quand on parle de l'argent qu'on n'aura jamais, parce qu'on fait des ajustements de carrière, parce qu'on passe plus de temps à prendre soin de sa famille. Et je veux dire, c'est pas du tout des choix qu'on... Enfin, c'est pas forcément critiquable, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est un travail qui n'est pas reconnu par la société.
Y compris quand c'est un choix de couple, parce que ça l'est parfois évidemment, en accord
évidemment,
tous les deux.
Bien sûr, mais quand vous vous arrêtez parce que vous n'avez pas de place en crèche. Admettons, il manque 200 000 places en crèche aujourd'hui pour répondre aux besoins immédiats, donc c'est aussi un sujet politique. Quand, du coup, vous posez un congé parental, c'est rémunéré 400 euros par mois. Ce congé parental, il est pris à plus de 95% par des femmes. Donc, il y a quand même un sujet d'appauvrissement quand on fait la variable d'ajustement. Donc, quand on fait 74% des tâches domestiques et parentales, on crée de la valeur, parce que monsieur pourra s'investir dans sa carrière, faire des horaires tard, partir en déplacement, être disponible, faire du réseautage, de l'autopromotion, toutes ces choses qui vont créer une valeur
carrière,
exponentielle. Et en cas de séparation, votre évolution salariale, votre évolution de carrière, elle ne part pas. C'est là où la carrière de monsieur fait souvent locomotive. Donc c'est un peu un piège. Donc quand on fait 50-50, on fait 50-50 sur tout. Voilà.
Marie nous attend au standard. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Je vous écoute.
Oui, donc en fait, par rapport à votre sujet, je suis étonnée qu'on n'aborde pas assez rapidement les violences économiques, en fait. Parce que tout le monde parle des violences conjugales, mais les violences économiques sont à la base des violences qui en découlent après. Je parle par exemple dans mon cas, je suis dans un couple qui est dysfonctionnel, je me sépare, j'ai deux enfants en bas âge, monsieur est cadre supérieur, moi pas. Donc forcément, celle qui s'arrête, c'est moi. Comme j'ai pas eu de place en crèche, je suis lésée. Dans la séparation, c'est pareil. Je fais une demande en place en crèche, je n'en obtiens pas. On parle de manque de place en crèche, il y a surtout de l'opacité dans les critères d'attribution, mais c'est un autre sujet. Mmh. Et alors, donc, je ne peux pas travailler. Je suis à la merci des versements de sa pension alimentaire. J'accumule les difficultés financières. Combien de fois par jour, je me demande, est-ce que je vais retourner avec lui ? Combien de fois par jour ? Et je comprends qu'en fait, lui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait, c'est de m'asphyxier économiquement. Et au début, j'ai beau avoir la force que j'ai une fille de 3 ans et un autre bébé de 1 an. Enfin, c'est pas viable, c'est trop compliqué. En fait, la société, elle rajoute des difficultés aux mères célibataires. Et on parle des violences, mais on oublie à quel point ce sont les violences économiques qui font qu'on retourne ou qu'on reste et qu'ensuite les situations, elles dégénèrent. Donc c'est bien beau quand c'est juste des histoires de vacances et tout ça, mais quand ça, on se retrouve dans des relations qui peuvent être graves et dangereuses. Qu'on est coincé à cause de ça, voilà.
Merci beaucoup, Marie, pour votre témoignage. Merci beaucoup, Héloïse Boll. Effectivement, ce que nous confie Marie, c'est des situations que vous avez pu observer. Le fait qu'une séparation, c'est parfois vraiment une précarité économique accrue pour certaines femmes.
Alors, la séparation, c'est une précarité économique très importante. Mais le problème dont parle cette auditrice, c'est un problème massif qu'on rencontre chez 23% des femmes de la part de leur partenaire actuel, le sujet des violences économiques. C'est un sujet de fond et c'est un vrai sujet.
Ce terme-là, violence économique, c'est un terme que vous appropriez, que vous partagez, un diagnostic que vous partagez.
Ah, mais c'est un diagnostic partagé et tous les spécialistes des violences conjugales vous disent que ça fait partie des violences au même titre que les violences administratives, les violences psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles. Ça fait vraiment partie des violences, et c'est en général la première marche vers un système dans lequel vous allez exercer votre emprise et votre contrôle coercitif, parce que quand vous dépossédez finalement progressivement la personne avec laquelle vous vivez de ses moyens, quand vous générez un manque à gagner chez elle en lui disant passe à mi-temps, travaille un peu moins, ce job-là est un peu compliqué, quand vous lui cachez l'argent, quand vous n'êtes pas transparent sur vos revenus, quand vous gagnez plus mais que vous ne partagez pas et que vous la forcez à faire une répartition à 50-50, finalement, dans toutes ces organisations-là, qui sont mises en place par les couples, mais plutôt par celui dans le couple qui a le pouvoir économique.
Donc majoritairement les hommes.
Majoritairement les hommes, qui sont subis, en tout cas qui ne sont pas consentis par la personne qui perd économiquement dans cette organisation, c'est une violence économique. Et le panel est extrêmement large. Alors ça va de ne pas payer les pensions alimentaires quand on est séparé, à voler des cartes bancaires et faire des achats à la place de son conjoint ou sa conjointe, à vraiment un exercice où on n'est pas du tout transparent et un exercice aussi où on prend complètement la main sur les finances, on décide seul. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement répandus. Ça concerne plus d'une femme, près d'une femme sur quatre en couple.
En cas de séparation. Ah oui,
et c'est vraiment des sujets dont il faut se méfier et qu'il faut nommer. Et j'ajoute que ce sont des sujets qu'on voit dans tout les catégories socio-professionnelles. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes à l'abri, bien au contraire.
Bernard Prieur, sur cette notion de violence économique, et on en revient encore à cette idée que effectivement ça va bien au-delà de l'argent pur, mais que c'est aussi la puissance de l'argent finalement.
Oui, mais je crois que c'est important de préciser qu'est-ce que c'est qu'une violence économique quotidienne. Une violence économique quotidienne, c'est par exemple si un homme intervient quand une femme veut, dans un supermarché, acheter tel produit ou tel autre et qu'il lui dit, eh bien tu sais, on en a à la maison, ce n'est pas la peine, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Ou quand par exemple une femme veut intervenir ou veut aider un des enfants qui grandit, etc., et que l'homme intervient. Cette violence économique, elle est quotidienne. Elle est quotidienne et effectivement, il est important de préciser et d'être attentif à l'escalade que cette violence quotidienne peut faire venir. Parce qu'effectivement, à partir du moment où une violence quotidienne intervient pour des produits consommables, mais ensuite elle peut arriver au moment où, par exemple, une femme va s'arrêter après le premier enfant de travailler et qu'à un moment donné, elle en a assez de pouvoir s'occuper simplement des enfants et de laisser tomber son activité professionnelle, à ce moment-là, l'homme peut dire, oui, mais tu sais, on a fait les calculs, si tu reprends le travail, et si effectivement, compte tenu de ce que tu vas gagner, ça va nous coûter plus cher en nounou, etc., etc., il vaut mieux que tu laisses tomber et que tu fasses un travail bénévole. Ça, c'est une violence quotidienne. C'est une violence quotidienne qui, effectivement, va créer un type de relation entre un homme et une femme. Et c'est là où c'est important. Ce qui est important, c'est de voir qu'à travers les questions d'argent, il n'y a pas que simplement des questions matérielles. Il va y avoir des mises en place relationnelles qui vont commencer à se mettre en place, effectivement, et qui vont, d'une certaine façon, définir les rôles de chacun. Les rôles de chacun.
Dans le couple,
c'est-à-dire que, par exemple, je prends aussi cet exemple. Quand des couples décident, tout à l'heure, vous avez parlé d'égalité, etc. Je pense, personnellement, qu'il est plus important de viser l'équité dans un couple que l'égalité. Parce que l'égalité risque d'arriver à cette idée « ce qui est à toi est à moi, on ne fait qu'un ». Et moi, je rajoute « oui, mais lequel ?»
Merci
et
beaucoup.
Souvent, c'est lequel, c'est celui qui a le plus de pouvoir, le plus de pouvoir dans le couple, qui va décider un certain nombre de choses par rapport à ces violences.
France Inter, le téléphone sonne.
Et au téléphone sonne ce soir, on parle argent et plus précisément argent dans le couple avec Lucille Quillet, Bernard Prieur et Héloïse Boll. Et au standard, nous accueillons Nicole. Bonsoir Nicole.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Alors moi, je voulais surtout parler de la prestation compensatoire, cette chose assez obscure qu'on nous brandit en cas de divorce, où effectivement, on parle aussi des sacrifices qu'ont mis l'un ou l'autre, hein, parce que ça peut être la femme ou l'homme. Et en fait, cette prestation compensatoire, elle peut être parfois montrée comme quelque chose de honteux, de la femme qui veut profiter de l'argent de son mari. Il y a un tas de modes de calcul, en fait, quand vous allez sur Internet ou avec les avocats. Mais derrière, c'est très obscur, c'est pas très clair, et je voulais savoir si un jour, ça va être légiféré par rapport à ça, pour que ça soit apaisé et clair, et qu'en cas de divorce dans le couple, eh ben, que ça ne devienne pas cette chose qui vous ronge, qui ronge de chaque côté, qui ronge les familles, et qui pour les femmes, parce que c'est souvent le cas des femmes, est nécessaire pour leur survie en fait. C'est pas, on ne demande pas l'aumône ou pour blesser l'autre, mais c'est nécessaire pour sa survie. Voilà.
Merci beaucoup Nicole pour votre question. Ça nous permet effectivement, outre de continuer à parler de la problématique des séparations, d'ouvrir aussi celle des enfants, parce que souvent ces prestations compensatoires, elles sont données eu égard au fait que les femmes ont réduit leur temps de travail ou voire complètement arrêté de travailler pendant un temps, en général pour s'occuper des enfants. Lucie Quillet, effectivement, il y a aussi un enjeu autour de ces prestations compensatoires. Et on l'entend dans le témoignage de Nicole, autour de la culpabilisation que ça génère parfois.
Oui, alors il faut bien distinguer pour ceux qui ont fait souvent l'amalgame entre les pensions alimentaires donc, qui sont versées pour les enfants, et qui ne sont pas ou pas entièrement versées dans 30 à 40% des cas quand même, et la prestation compensatoire qui, elle, est versée à l'ex-conjoint ou conjointe pour justement compenser des écarts de niveau de vie trop importants. C'est un peu le summum de l'ingratitude, en fait. Parce que les hommes n'auraient jamais les carrières qu'ils ont et l'argent qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes, sans toute leur mise à disposition et tous les ajustements qu'elles ont faits.
Je me permets d'ailleurs de donner des chiffres que vous donnez dans votre BD, donc je vous les attribue, mais on estime à 292 milliards d'euros au niveau mondial ce que rapporte l'argent, justement,
le travail domestique
des femmes. Bernard Prieur mentionne un tiers du PIB mondial. Effectivement, c'est colossal quand on le voit comme ça.
Si les femmes arrêtaient de faire le travail gratuit qu'elles font à la place de leur conjoint, il y a plein de choses qui tomberaient par terre et qui ne fonctionneraient pas. Donc en fait, la prestation compensatoire, c'est juste une juste rétribution pour tous les dons de temps, les dons d'investissement, de présence qui a rendu possible la carrière. Avant, la prestation compensatoire, elle pouvait être versée pendant vraiment beaucoup d'années. Maintenant, ça a été légiféré dans les années 2000, on a réduit à 8 ans maximum l'étalement de cette prestation compensatoire. Et on a favorisé le fait de faire un seul versement au moment où on règle le divorce, en disant que ça serait moins humiliant pour les femmes de percevoir cette rente de la part de leur ancien compagnon.
Sachant que le versement, en général, est inférieur à la somme de ce que ça reviendrait
bien sûr,
in fine au
bien
bout
sûr,
du temps.
Bah oui. Évidemment, les calculs ne sont pas bons. Et surtout, et ça c'est dans le livre Le genre du capital de Céline Bessières et Sybille Gola, elles ont révélé qu'il y avait ce système de comptabilité inversée. C'est-à-dire qu'au moment d'une séparation, au moment de calculer la prestation compensatoire ou même la pension alimentaire, on ne regarde pas combien la femme mérite ou ce dont l'enfant a besoin. On regarde ce que l'homme peut donner dans la limite de ses moyens immédiats sans abîmer son patrimoine. La pension alimentaire, c'est environ 13% du revenu. C'est pas fou, quoi. Voilà. Mmh. Et la prestation compensatoire, je trouve, ça dit quelque chose de cette vision de la femme encore très vénale, profiteuse, intéressée, qui veut saigner son ancien compagnon. Et donc, ça veut vraiment dire qu'on a du mal à percevoir tout ce qu'elles ont sacrifié et tout ce qu'elles ont rendu possible pour leur ancien compagnon. Donc là, moi, je trouve que c'est vraiment un gros... voilà. Et alors, comment est-ce qu'on peut légiférer ? Ce qui est difficile, c'est que souvent, les séparations, on favorise les séparations à l'amiable, dans des cabinets d'avocats. Donc, voir si le calcul, la répartition qui est faite est vraiment juste, c'est vraiment pas la priorité. Surtout quand il y a des enfants. Parce que quand il y a des enfants, on va vous dire, c'est bien que ce soit à l'amiable, d'éviter les conflits. Donc ça, on demande aux femmes, au nom de l'harmonie familiale, au nom du bien-être des enfants, de s'asseoir sur leur intérêt individuel. Sauf qu'après, évidemment, ça va être beaucoup plus dur pour elles, parce qu'elles représentent... plus de 84% des familles monoparentales. Donc en fait, on va demander aux femmes de faire plus avec moins. Elles ont moins de revenus, elles ont moins de ressources, elles ont la garde exclusive des enfants, elles mettront plus de temps à se remettre en couple que les hommes qui, eux, ont capitalisé sur le long terme, vont retrouver des économies d'échelle avec une nouvelle conjointe qui va faire plus de tâches domestiques. Voilà, la boucle est bouclée.
Fabio nous attend au standard. Bonsoir Fabio.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Merci. Bon, je voulais juste donner mon autre exemple. Bon, on est un couple de garçons, hein, donc avec un écart de salaire assez important. Mm-hmm. Mais bon, dès les départs, enfin, quand nous sommes mariés, donc on a profité de ça, on a fait un contrat de mariage. On a un compte commun juste pour les dépenses alimentaires, pour aller faire les courses. Et ensuite, pour les restes, chacun des deux dépense en fonction de ses propres moyens et ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, sans rendre compte l'un à l'autre de ce qu'il fait ou ce qu'il dépense. Et ça fonctionne très bien. Nous n'avons pas de tension à ces niveaux-là, et par rapport, j'ajouterais tout simplement, par rapport à ce que j'ai entendu à l'antenne, c'est vrai que moi, le fait d'être en couple avec quelqu'un qui gagne moins que moi, c'est vrai que pour pas mal d'événements, notamment je pense à des vacances, j'ai payé quasiment la totalité. J'étais en quelque sorte lésé moi aussi, dans le sens où si moi j'ai pu mettre 10 000 euros pour des vacances, si j'étais en couple avec quelqu'un qui gagnait autant que moi, nous aurions pu nous payer des vacances à 20 000 euros.
C'est sûr.
Voilà. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas, nous nous sommes payés des vacances à 10 000 euros. Voilà. Donc celui qui gagne le plus, des fois, il est obligé quand même de revoir à la baisse dans certains contextes de la vie, justement à la baisse, je pense, c'est loisir. Voilà. Mais sinon, vous les restez.
Mais même dans ce cas-là, pour vous, dans votre couple, c'est pas un sujet de conflit, parce que c'est quand même un des sujets disputes majeurs dans les couples, que l'argent au quotidien.
Si je devais aller en vacances, justement, là, il pourrait aller, lui, je passerais des vacances calamiteuses. Donc, je vous les portefeuilles, et nous allons en vacances où j'ai envie d'y aller. Voilà. Donc, c'est comme ça et ça se passe, et je suis très content que ça se passe comme ça, et de pouvoir offrir occasionnellement, je pense notamment aux vacances, c'est là où ça part, l'argent, et bref, au quotidien, c'est vraiment chacun va dans le magasin qu'il veut, il s'achète ce qu'il veut, quand il veut, et voilà. Sans aucune ni jalousie ou frustration de part et d'autre.
Voilà. Merci beaucoup Fabio pour votre témoignage. Héloïse Boll, finalement, la bonne solution, c'est celle où, où on met le minimum en commun et chacun garde son, la majorité pour lui et pour sa liberté. C'est comme ça qu'on pourrait le conclure ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça?
Alors, pas nécessairement, parce que en fait, vous avez autant d'organisations que de couples, en réalité, en fonction de qui a quoi, de qui gagne le plus, qui gagne le moins, mais aussi qui a le patrimoine familial le plus important. Parfois, ce ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir un très petit patrimoine familial et une très grosse carrière, et vice-versa. Donc, il n'y a malheureusement pas de solution miracle. En revanche, je voudrais rebondir sur deux choses. Je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire ce monsieur, qui explique que finalement, son train de vie est dicté à la baisse par les revenus de son compagnon. Eh bien, j'ai presque envie de dire, mais heureusement, parce que s'il entraînait son compagnon dans des dépenses inconsidérées qui ne sont pas à sa portée, finalement, il mettrait son compagnon en difficulté financière. Et donc, l'idée quand même des couples, c'est de faire chacun un pas de son côté et chacun un pas en avant pour trouver un compromis qui soit acceptable pour tous. La deuxième chose, toujours à propos de ce que dit ce monsieur, c'est que effectivement chacun contribue à hauteur de ses moyens. Et ben ça c'est pas c'est très bien, mais c'est le code civil finalement qui le dit. Donc c'est très bien, mais c'est normal. Enfin, si vous permettez, j'aimerais bien revenir sur la prestation compensatoire pour alerter un certain nombre de couples.
Allez-y,
la prestation compensatoire, c'est un outil qui n'existe aujourd'hui que pour les couples mariés. Et je voudrais alerter quand même sur le fait qu'on a des générations entières de femmes qui sont paxées ou en union libre, qui ont consenti les mêmes sacrifices professionnels que les femmes mariées pour s'occuper de leurs enfants notamment, et qui se retrouvent au moment de la séparation sans aucun droit à la prestation compensatoire et sans compensation aucune. Et donc en fait, elles ont fait les mêmes sacrifices, mais elles n'ont pas de filet. Donc attention à ça, le PACS et l'union libre ne donnent pas droit à la prestation compensatoire.
Merci beaucoup pour cette mise en garde. Nous avons Guillaume qui nous écrit via WhatsApp. Je trouve qu'il y a un problème plus général d'éducation aux finances personnelles. Peut-être faudrait-il apprendre dès l'école à gérer son argent comme on apprenait à l'époque à coudre ou à bricoler. Et je voudrais vous rajouter une question à celle-là, Bernard Prieur, parce que encore faut-il ne pas perpétuer dans les familles les stéréotypes aussi. J'ai appris en lisant votre livre que notamment dans la question de l'argent de poche, on retrouvait des inégalités avec plus souvent des garçons qui percevaient plus que des filles. Je vous avoue que je suis un peu tombée de ma chaise.
Eh bien, écoutez, ce sont les chiffres qui sont tout à fait vrais, c'est-à-dire que les garçons ont plus d'argent de poche que les filles, premièrement. Et puis, deuxièmement, d'une manière générale, les filles, les petites filles ou les plus grandes ont moins tendance à demander et à quémander que les garçons. Et troisièmement, Ce dont on s'est aperçu, c'est que souvent, ce sont, pas toujours, mais ce sont souvent les mères qui peuvent répondre positivement aux demandes des garçons. Donc là, il y a effectivement une inégalité absolument fondamentale. Par ailleurs, nous avons organisé des réunions de groupes de filles de 9 à 12 ans. Quand on leur demande qu'est-ce qu'elles désirent faire dans la vie, quelles sont les professions, en général, ce sont surtout des professions de soins, d'aide aux autres, etc., etc., des professions artistique, admettons, etc. Et quand, effectivement, on avance dans l'échange et qu'on leur dit « Mais à ton avis, si tu avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu en ferais ?» Eh bien, d'abord, j'aiderais ma famille. Ensuite, j'essaierais de faire une belle maison. Ensuite, eh bien, je donnerais à des associations, j'aiderais les pauvres, etc. Toujours la question du quart, la question du soin. Et le dernier point, c'est quand on leur dit « Mais au fond, l'argent, à quoi ça sert ?» Eh bien, beaucoup de filles vont nous répondre « Ça ne sert à rien ». Ça veut dire que là aussi, c'est une question effectivement d'éducation, parce que ces filles-là sont élevées dans la mesure où on a l'impression qu'elles ont le droit à l'amour, à l'affectif, etc., mais que le reste, elles n'ont pas à s'en occuper. Alors que les garçons, tout de suite, vont quémander, vont demander et vont imposer leur point de vue.
Freddy nous attend au standard. Freddy, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On va vous demander de faire court pour qu'on puisse avoir le temps de vous répondre parce qu'on touche à la fin de l'émission. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Merci pour vos émissions. Bah, écoutez, je voulais vous témoigner notre situation parce qu'en fait, nous, on est un peu tiraillés dans le couple. Moi, j'ai une éducation très stricte, on va dire, au niveau de l'argent, avec la notion du mérite pour avoir de l'argent. Et ma femme est plutôt d'une éducation très généreuse, avec l'idée que bah, si on a de l'argent, on peut en donner à nos enfants voilà, de façon naturelle. Et en fait, ça crée des tensions dans le couple parce que avec les enfants qui grandissent autour de 20 ans, avec des études qui sont quand même onéreuses, bah, en fait, on se retrouve à être pas trop d'accord sur qu'est-ce qu'on donne pour les l'éducation, qu'est-ce qu'on donne pour l'argent de poche, qu'est-ce qu'on donne pour les loisirs, etc.
Merci Freddy. On va laisser notre invitée Lucie Quillet vous répondre. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, quand les enfants grandissent, il y a aussi des sources de conflits.
Bien sûr. Ben après, je pense que comme l'a dit Héloïse un peu plus tôt, être en couple, c'est faire des compromis. Donc trouver un terrain d'entente, se dire bon bah ben là, on peut aider les enfants sur tel point, sur des choses un peu structurantes, ben, typiquement le logement, l'alimentaire, mais sur le reste, c'est à eux d'être méritants et de se débrouiller. Mais le principal, c'est de pouvoir en parler, s'écouter, se respecter et puis voilà, faire des compromis.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Lucie Quillet. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Merci Bernard Prieur, psychologue, psychanalyste, et vous avez écrit « Disputez-vous bien avec votre épouse Nicole Prieur ». Et Loïse Boll, vous êtes l'auteur « Des bons comptes font les bons amants ». Merci beaucoup à tous les trois. Tout de suite, c'est l'heure de la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 2 ans et je voudrais savoir quelle température il faisait avant dans le château de Versailles, par exemple dans la chambre du roi. Au revoir, merci.
Merci beaucoup, question très pointue, on vous répond juste après le flash.